Allez Michel, donc bonne intervention, hein, donc fin mélomane. Donc avant de parler de cette nouvelle chronique astro, redites-nous quelques mots sur Conseil Action et Galaxie. On en redira à la fin également hein, l'association que vous représentez.
Donc à chaque fois, comme à chaque fois, je vais me faire gronder en disant que c'est une petite association.
Voilà, oui.
qui est basée en Dordogne, à côté de Mussidan, à Saint-Médard-de-Mussidan, si je veux être précis. Et qui est active dans le domaine de la diffusion de la culture scientifique, principalement en Dordogne, mais un peu dans toute la région, avec en particulier notre planétarium itinérant qui permet d'aller, or souvent c'est dans le milieu scolaire, les écoles, les collèges, pour expliquer le ciel aux élèves. Hein. Il y a un petit peu d'astronomie dans les programmes scolaires. Et donc une structure gonflable, on peut trouver toutes les informations sur notre site dans la partie planétarium, on verra quelle place il faut pour l'installer, de quoi on parle dans une séance et aussi les tarifs parce que malheureusement tout ça ne peut pas être gratuit. Voilà.
Voilà, c'était bien de dire quelques mots, constellation et galaxie.org, bien sûr, et puis on le redira à la fin. Allez, on va entrer dans le vif de votre chronique et commencer par l'actu et Thomas Pesquet dans l'ISS. Hein. Alors rappelez-nous déjà, ISS, c'est un acronyme, Station Spatiale Internationale, mais bon, c'est l'acronyme anglais, voilà.
Voilà,
explique cela.
Je voulais en reparler un petit peu parce que les médias nous informent régulièrement sur sa vie à bord de la station spatiale. Notamment parce qu'il y a des communications à destination du public et j'ai vu entre autres qu'il y avait des interventions pour les élèves d'une école de Haute-Vienne mercredi et qu'il y aura d'autres interventions pour des écoles en février. Et pour ma part, je crois qu'il est important qu'un spationaute français, ce qui est rare, endosse ce rôle de porte-drapeau pour intéresser le public à la conquête spatiale et plus particulièrement les enfants, parce que je pense que ça peut susciter des vocations professionnelles pour plus tard dans le domaine de l'espace, de l'astronomie ou plus généralement des sciences. Alors, dans une de ses dernières interventions, j'ai remarqué qu'il avait parlé de son menu de réveillon, élaboré par un chef français, et nettement amélioré par rapport aux plats déshydratés qui font l'ordinaire des astronautes de l'ISS. Plats, je le précise, qui sont réhydratés avec l'eau recyclée de la station, dont notamment l'urine des astronomes, hein, des astronautes, pardon. Pour Noël, il y avait du poulet au mori et au vin jaune, donc je l'ai remarqué parce que c'est une recette typique de ma Franche-Comté natale, hein. Je suis pas du Sud-Ouest. Les spationautes, à mon avis, ont eu beaucoup de chance, car ces préparations étaient déjà en réserve à bord, alors que les boîtes de conserve auraient pu se perdre lors du crash du dernier ravitailleur. En effet, un vaisseau cargo russe qui avait décollé le 1er décembre de Baïkonour a été perdu 6 minutes plus tard et s'est désintégré dans l'atmosphère ainsi que tout son contenu, d'à peu près 2 tonnes et demie, dont de l'oxygène, de l'eau et donc des vivres. Un incident analogue s'était déjà produit en avril 2015, mais je rassure les auditeurs, il n'y a pas d'inquiétude à court terme pour l'équipage de l'ISS car il dispose de réserves à bord. Et un autre ravitailleur, cette fois japonais, appelé HTV-6, a déjà rejoint l'ISS le 13 décembre. Alors je profite de cet incident pour éclairer deux aspects de ces missions en orbite. Tout d'abord, en dehors des lancements des capsules habitées vers l'ISS ou à l'inverse, le retour des équipages sur Terre qui sont les plus médiatisés, il faut savoir que la bonne marche de la station nécessite l'envoi régulier de cargos non habités pour lui apporter automatiquement les ressources nécessaires aussi bien à la survie des astronautes, comme l'oxygène, l'eau ou la nourriture, qu'au fonctionnement du vaisseau, l'HTV-6 a apporté par exemple des nouvelles batteries, ou encore des équipements pour mener à bien les expériences scientifiques prévues. Et deuxième point, contrairement à l'envoi des équipages que seuls les Soyouz russes permettent de réaliser, comme je l'avais rappelé le mois dernier, ces cargos sont expédiés par différents partenaires du programme international, dont les Russes, bien sûr, l'agence japonaise JAXA avec l'HTV, l'ESA et ses ATV lancés avec Ariane, le dernier ATV-5 en juillet 2014, et la NASA qui confie désormais ses lancements au secteur privé avec les sociétés SpaceX et ATK. Et j'en profite pour une petite précision avec... si on extrapole une future mission habitée vers Mars, dont je répète souvent ici et ailleurs, hein, j'ai eu l'occasion d'en parler aux élèves du collège de Léognan juste avant les vacances par exemple, une telle mission serait très coûteuse et difficile car on imagine la taille et le poids d'un vaisseau qui devra emporter un équipage pendant 6 mois avec tout ce qui est nécessaire à sa survie, car il n'est pas envisageable de lancer, hein, contrairement à l'ISS, des cargos à sa poursuite. Et il faudra aussi tout le ravitaillement indispensable à leur séjour sur Mars pendant environ 18 mois, hein, jusqu'à ce que la Terre et Mars soient de nouveau en position favorable pour le trajet retour. Alors aujourd'hui, on envisage de faire parvenir tout l'équipement sur le sol martien à l'avance, par d'autres vaisseaux, hein, donc encore des coûts supplémentaires, comme on le voyait d'ailleurs dans le film « Seul sur Mars ». Et si on veut pas prendre de risque avec les aléas de l'atterrissage, hein, il faut savoir que la moitié des sondes qu'on a envoyées sur Mars se sont crashées à la surface jusqu'à maintenant. Il faudrait même les expédier 2 ans à l'avance lors de la précédente conjonction Terre-Mars pour être sûr que les astronautes trouvent tout en bon état à leur arrivée.
Allez, on reste dans l'actu et voilà, parmi les tristes nouvelles, la mort de l'astronaute américain John Glenn.
Oui, alors je voulais revenir sur l'annonce par les médias de la mort de John Glenn le 8 décembre à l'âge de 95 ans, car comme on a souvent rappelé qu'il avait été le premier américain en orbite autour de la Terre, je voulais bien préciser les choses. Le premier homme en orbite a bien sûr été Yuri Gagarin, hein, le soviétique, le 12 avril 1961. Et comme je l'avais expliqué lors de notre chronique d'octobre consacrée à la conquête spatiale, les Américains avaient un retard considérable sur les soviétiques en ce qui concerne la technologie des lanceurs. Ils ont néanmoins réussi, moins d'un mois plus tard, le 5 mai 1961, à lancer Alan Shepard dans l'espace, mais avec un vol court, ne lui ayant permis que de sortir brièvement de l'atmosphère avant d'y revenir et d'atterrir. C'est un peu le genre de vol que des sociétés américaines envisagent pour des futurs touristes spatiaux. Mais c'est bien John Glenn, effectivement, le premier Américain à avoir accompli une orbite complète de la Terre. Et avant une rentrée, un an plus tard, en fait, hein, le 20 février 1962, où il accomplit 3 tours complets avant une rentrée atmosphérique très périlleuse d'ailleurs, car son bouclier thermique semblait sur le point de se détacher, et on sait aujourd'hui que c'était en fait une erreur d'un capteur défectueux. Pour conclure, ces deux astronautes ont connu des suites à leur carrière spatiale. Alan Shepard, dès février 1971, comme commandant de la mission Apollo 14 et 5e homme à marcher sur la Lune, et John Glenn en octobre 1998, avec un vol de la navette spatiale, et devenant ainsi à 77 ans, l'astronaute le plus âgé jamais envoyé dans l'espace. Alan Shepard est mort, lui, en juillet 1998, à l'âge de 74 ans.
Allez, on reste dans l'actu également avec l'ESA fixé sur l'avenir de ses projets.
Oui, alors l'ESA, hein, l'Agence spatiale européenne, en ces périodes de nouvel an où on s'interroge fréquemment sur ce que nous réserve l'année qui vient, j'ai pensé qu'il serait bon de faire le point sur les décisions prises par le conseil ministériel de l'ESA qui s'est tenu le 1er et 2 décembre à Lucerne en Suisse et a approuvé des budgets totalisant plus de 10 milliards d'euros pour les futures activités et projets de cette agence. Avant de parler un petit peu plus de ces projets, je voulais dire un petit mot des Américains, de la NASA, qui sont plongés dans une période d'incertitude avec l'arrivée prochaine de Donald Trump à la Maison-Blanche. Avant cette chronique, j'ai relu différentes analyses de spécialistes concernant ses intentions dans ce domaine, et comme sur d'autres sujets, le président élu a fait des déclarations tranchées et notamment affirmé sa volonté de conserver aux USA leur place de leader dans la conquête spatiale. Dans le détail, il semble avoir l'intention de déléguer totalement au privé tout ce qui concerne les missions en orbite basse comme l'ISS, de revoir complètement les programmes d'observation de la Terre en réduisant tout ce qui concerne les études liées au réchauffement climatique. On sait qu'il n'est pas très fan de ce problème. Et il veut réorienter les budgets en faveur des missions humaines plutôt que robotiques, d'abord vers la Lune, puis vers Mars. Et il remet aussi en cause le projet ARM, hein, ce qui veut dire Asteroid Retrieval Mission, qui prévoyait d'aller capturer un astéroïde pour le ramener en orbite lunaire afin de l'étudier de plus près et éventuellement d'en exploiter les ressources minérales. Alors c'est un peu paradoxal parce que ce projet était pourtant considéré comme une étape préalable permettant de tester les technologies nécessaires à une mission martienne habitée. Alors comme pour d'autres domaines, je pense qu'il faudra attendre quelques semaines de voir quelle politique sera effectivement suivie par Trump par rapport aux annonces qu'il avait faites pendant sa campagne.
Voilà, et puis vous en reparlerez certainement, bien sûr, dans vos chroniques. Alors l'Europe, justement.
Alors pour en revenir à l'Europe, l'ESA a réuni les 22 membres de son conseil ministériel, comme elle le fait tous les 2 ou 3 ans, pour définir sa politique. La réunion précédente remontait à décembre 2014 et la prochaine est prévue fin 2019 en Espagne. Je précise que le représentant de la France à cette réunion était Thierry Mandon, secrétaire d'État en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche. Alors pour rappel, les principaux États membres en termes de contributions financières au budget de l'ESA sont dans l'ordre décroissant de leur budget l'Allemagne, la France, l'Italie, le Royaume-Uni, la Belgique, l'Espagne, les Pays-Bas et la Suède. En 2016, ces nations représentaient 86% du budget de l'ESA et à elles seules, l'Allemagne et la France en représentent 46%, donc presque la moitié. L'ensemble des activités de l'ESA sont réunies sous un concept qui s'appelle « Espace uni européen ». Et les décisions prises en début décembre engagent les activités de l'agence pour la période 2017 à 2021, donc sur 4 ans, le centre spatial guyanais aussi pour la même période et les futurs programmes de l'ESA. Alors, je peux pas détailler toutes les résolutions adoptées, on peut trouver ça sur Internet, mais voici quelques points qui me paraissent intéressants. La plus grosse part des budgets approuvés, presque 1,4 milliard d'euros, ira à l'observation de la Terre, et l'ESA veut poursuivre son soutien aux recherches sur le changement climatique dans le prolongement de l'accord de Paris de 2015. Donc on voit que c'est complètement inverse de l'orientation de Trump pour la NASA. Malgré le crash en octobre de l'atterrisseur Schiaparelli, de la mission ExoMars 2016, hein, on en avait parlé ici. La mission 2020 est confirmée. Hein, je rappelle qu'elle doit forer jusqu'à 2 mètres dans le sous-sol à la recherche d'une éventuelle forme de vie. Il a été décidé aussi la poursuite de la participation de l'ESA à la Station Spatiale Internationale jusqu'en 2024 et la confirmation des missions dans le système solaire, donc deux missions notables, BepiColombo Colombo qui doit partir en 2018 vers Mercure et une autre mission qui s'appelle JUICE, hein, donc le nom complet c'est Jupiter Icy Moon Explorer, donc comme son nom l'indique, doit partir étudier les satellites joviens en 2022, et notamment Europe, hein, le satellite qui avec son océan sous une épaisse banquise en surface est l'un des quatre sites de recherche d'une vie possible dans le système solaire. Cette sonde devra ensuite se mettre en orbite autour de Jupiter vers 2032 normalement. Et enfin, le projet Ariane 6 qui doit remplacer le lanceur actuel Ariane 5 vers 2021. Hein, pour résumer, je dirais que l'Europe croit à travers ses décisions, on voit bien que l'Europe croit à l'intérêt des activités spatiales et soutient financièrement la plupart des projets de l'ESA.
Allez, deuxième partie de votre chronique, autour de l'étoile de Bethléem, voilà, en ces périodes de Noël.
Voilà, ça m'a semblé approprié d'évoquer aujourd'hui cette fameuse étoile, puisque Noël est tout juste passé, que l'épiphanie, censée fêter la visite des fameux rois mages, approche avec sa populaire galette, donnant à chacun une chance de devenir roi pour un jour. Alors en fait, hein, j'ai regardé un petit peu sur Internet, d'après ce que j'ai vu, cette tradition de la galette des rois serait toute païenne et remonterait aux Saturnales de la Rome antique. Et l'épiphanie, quant à elle, trouverait peut-être son origine dans une fête de la lumière. Finalement, ça nous ramène un petit peu à l'étoile. On constate, hein, si je veux être un peu plus général, que beaucoup de fêtes chrétiennes dans le calendrier sont venues se substituer à des traditions plus anciennes, car il était plus simple pour l'Église de recycler, hein, si je peux dire, ces rendez-vous en changeant leur signification, plutôt que de les interdire et tenter d'imposer un nouveau calendrier de célébration. Pour que les auditeurs ne soient pas déçus par cette chronique, je préfère les prévenir tout de suite que je ne dirai rien de définitif sur ce sujet très controversé de l'étoile de Bethléem, mais que je veux juste évoquer cette question historique sous l'angle de l'astronomie en examinant différentes hypothèses qui ont été formulées à son sujet. Pour une part, je me suis inspiré d'ailleurs d'un article de Sébastien Beaucourt paru en décembre 2014 dans Astronomie Magazine, une bonne revue destinée aux astronomes amateurs mais qui a malheureusement disparu cet été. Alors pour commencer, revenons à l'origine de cette histoire. La visite des rois mages est mentionnée dans le seul évangile de Matthieu. Je cite à peu près « Voici que des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile, en Orient et sommes venus pour l'adorer. » Puis suit le récit de leur rencontre avec le roi Hérode, leur recherche du lieu de la naissance guidée par la fameuse étoile, et leur arrivée à Bethléem où ils rencontrent le nouveau-né et sa mère, et laissent leurs fameux trois présents, l'or, l'encens et la myrrhe. Rien n'est dit sur l'identité de ces mages, à part qu'ils viennent d'Orient, donc de l'Est, ce qui est plutôt vague, car ça peut désigner plusieurs régions du Moyen-Orient, comme l'Arabie, la Perse ou la Mésopotamie. Alors on interprète souvent leur qualité de mage, c'est le seul mot qui est employé dans l'évangile, comme indiquant des savants, donc probablement des astrologues, ce qui à l'époque n'était pas différent d'être astronome dans l'Antiquité. Ce qui fait penser qu'ils pouvaient venir de Babylone, grand centre d'études du ciel à l'époque et où l'astrologie jouait un grand rôle. C'est au IIe siècle que le philosophe grec Origène fixe leur nombre à 3, en raison des 3 présents qu'ils transportent. Et c'est ensuite la tradition populaire qui a enjolivé leur histoire en faisant des rois, puis en leur donnant des noms. Alors comme toujours avec les textes bibliques, il est délicat de leur donner une interprétation historique exacte, car on sait qu'ils ont été rédigés bien après les fêtes qu'ils sont censés relater, et qu'ils mêlent des événements peut-être réels avec des éléments mythiques ou symboliques. Pour la recherche d'un événement astronomique, la datation est délicate, car il n'y a pas de chronologie précise. Et la naissance du Christ le 25 décembre de l'an 1 est une convention ultérieure qui n'a pas de base historique certaine. Le 25 décembre a été choisi au 4e siècle pour christianiser les fêtes païennes du solstice d'hiver. Et c'est seulement en 532 qu'on a décidé d'instaurer l'ère chrétienne en comptant les années à partir de cette naissance. Le moine romain Denis le Petit, chargé de faire le calcul, la situa en l'an 753 après la fondation de Rome, qui était le repère du calendrier romain. Les recherches récentes semblent montrer qu'il s'est trompé, car à supposer que cet événement puisse être admis comme historiquement réel, sa date est probablement erronée de plusieurs années. En effet, l'évangile de Matthieu fait référence au roi Hérode, dont on sait par un historien romain qu'il est mort peu après une éclipse de lune qui s'est produite en l'an 5 avant Jésus-Christ. Et si la naissance a eu lieu à Bethléem et non à Nazareth où résidaient ses parents, c'est en raison d'une opération de recensement décrétée par Auguste en l'an 8 avant Jésus-Christ. Donc certains astronomes se sont mis en chasse de phénomènes remarquables dans les années précédant le début de l'ère chrétienne entre l'an 8 et l'an 5 avant Jésus-Christ.
Alors, quel phénomène astronomique pourrait être cette étoile ?
Eh bien, c'est toute la question. Mais avant d'y répondre, il faut déjà tordre le cou à une idée erronée. On représente traditionnellement la fameuse étoile comme un lumignon fixe au-dessus de la nativité pour indiquer précisément le lieu au mage. Mais en raison de la rotation de la Terre et des mouvements des corps célestes, aucun phénomène astronomique ne peut correspondre avec cette conception. Pour être un repère géographique fixe pour un observateur terrestre, seule une sorte de phare miraculeux, ou pour les plus excentriques, hein, y en a qui pensent à des choses comme ça, un ovni au vol stationnaire au-dessus de Bethléem, peuvent correspondre à cette idée de fixité par rapport au sol. Tout objet céleste, quel qu'il soit, ne peut être que mobile par rapport à un observateur terrestre. Pour s'en convaincre, il suffit d'observer le ciel un de ces soirs. En ce moment, dès le crépuscule, on a vers le sud-ouest un beau phare blanc et intense, qui ferait une belle étoile de Noël d'ailleurs, c'est la planète Vénus, qui est bien haute en début de soirée, mais comme le soleil un peu plus tôt, va lentement descendre vers l'ouest pour se coucher autour de 21h15 hein, ces jours-ci. À l'inverse, côté est, on pourra voir en début de nuit noire, vers 18h30, trois étoiles bien alignées, qu'on surnomme d'ailleurs parfois les rois mages, car elles apparaissent dans le ciel du soir vers Noël. Elles forment en fait la ceinture de la silhouette humaine de la constellation d'Orion. Mais si à cette heure-là, elle n'est pas encore totalement levée, hein, les jambes sont encore masquées sous l'horizon, vers minuit, elle dominera le ciel plein sud. C'est l'effet direct de la rotation de la Terre, un tour d'ouest en est en 24 heures par rapport au Soleil, hein, je rappelle que c'est 23h56 par rapport aux étoiles, qui nous fait percevoir une rotation apparente inverse du ciel, d'est en ouest. Un peu comme les enfants sur un manège à la fête, ils voient tout l'environnement tourner autour d'eux alors que ce sont eux qui sont en rotation avec le manège. Donc tout phénomène ou corps dans l'espace sera animé de ce mouvement apparent qu'il fera changer constamment de position par rapport à un observateur terrestre et même, aux latitudes comme celle de la France ou de la Palestine, ne le laissera visible que quelques heures dans le ciel. Un objet céleste ne peut donc pas indiquer une direction précise et encore moins un lieu précis sur Terre. Et si l'observation se poursuit sur plusieurs jours, ce qui est probable pour ces mages qui semblent avoir voyagé longtemps avant d'atteindre la Palestine, ça peut être encore un peu plus compliqué, car tous les corps du système solaire, les cinq planètes visibles à l'œil nu, car à l'époque il n'y avait pas de lunettes ni de télescopes, et le Soleil et la Lune, considérés à l'époque aussi comme des planètes, se déplacent lentement par rapport aux étoiles, de l'ouest vers l'est, elles. Les comètes aussi, mais dans un sens variable selon leur trajectoire. Dans ces différents objets célestes, je laisse de côté les astéroïdes qui ne sont généralement pas visibles à l'œil nu, sauf quand ils passent très près de la Terre, et à ce moment-là, ils se déplacent tellement rapidement que ça correspond encore moins à l'idée d'un repère céleste pour les mages. Ces mouvements apparents dans le ciel, des planètes, hein, donc, de la Lune et du Soleil, sont le résultat de la révolution en un an de la Terre autour du Soleil pour celui-ci, de la révolution de la Lune autour de la Terre en environ un mois, et pour les autres corps, de la combinaison de leur révolution autour du Soleil avec celle de la Terre. Donc pour résumer tout ça, notre étoile de Bethléem, les astronomes ne peuvent pas chercher un repère fixe dans le ciel, car ça n'existe pas, mais plutôt un phénomène remarquable qui aurait pu guider les mages ayant interprété l'événement céleste d'un point de vue astrologique. Et il ne s'agit pas forcément d'un objet très brillant, évident même pour des non-astronomes, car l'évangile précise que Hérode s'enquit auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Donc ça ne devait pas sauter aux yeux, hein, puisqu'il l'avait pas remarqué. Pour ce genre de phénomène inhabituel, on a trois candidats possibles, une comète, une supernova ou une conjonction planétaire exceptionnelle.
Et on trouve quelque chose dans la période voulue ?
Alors, si je commence par la comète, cette hypothèse nous est surtout suggérée par le célèbre tableau du peintre italien Giotto, qui en a représenté une au-dessus de sa nativité, mais c'est parce qu'il avait été impressionné en observant lui-même en 1301 le passage de la comète de Halley, hein, qui bien sûr à l'époque ne portait pas ce nom. D'ailleurs, on continue souvent à placer au-dessus de la crèche ou du sapin une étoile avec une queue qui peut évoquer une comète. Personnellement, je trouve que cette explication tient assez mal, car une comète est un astre diffus qui correspond assez peu au terme d'étoile. Les plus brillantes ont des queues très étendues et sont évidentes pour tout un chacun, ce qui ne semble pas coller avec l'évangile, alors que les plus discrètes sont à peine discernables comme une tache floue. Il peut cependant y avoir une ambiguïté due à la traduction, car le texte « Nous avons vu son étoile en Orient » pourrait aussi signifier « Nous avons vu se lever son étoile », ce qui pourrait mieux correspondre avec le lent déplacement d'une comète dans le ciel. En tout cas, aucune comète périodique, c'est-à-dire celle qui repasse régulièrement dans le ciel comme celle de Halley tous les 76 ans, ne semble correspondre, du moins pour celle que l'on connaît. Et si son passage était unique ou qu'elle ne nous soit pas encore revenue, il est impossible de l'identifier. Mais cette hypothèse reste possible car des astronomes chinois rapportent le passage d'une comète visible 70 jours en mars-avril de l'an 5 avant Jésus-Christ, donc dans la période recherchée. Mais si ce que j'ai pu lire sur internet à son sujet est correct, elle était située dans la constellation du Capricorne, qui au printemps se lève très tard le matin, donc vers l'horizon est. Et ça semble contradictoire avec la provenance des mages, d'Orient, donc de l'est, qui aurait dû plutôt suivre un signe indiquant l'ouest pour aboutir en Palestine. Cette théorie de la comète a été reprise dans un livre récent, publié à Londres en septembre 2015 par un docteur en théologie. J'ai cherché, mais il ne semble pas avoir été traduit en français. C'est un titre du genre « The Great Comet of Christ » ou quelque chose comme ça.
Et la supernova, ça correspondrait mieux à une étoile, non ?
Oui, alors je rappelle à vos auditeurs qu'une supernova est l'explosion d'une étoile très massive à la fin de sa vie, ce qui lui donne subitement un éclat impressionnant, parfois même visible en plein jour, comme celle de 1054, là où auparavant aucune étoile n'était particulièrement remarquable dans le ciel. Dans une moindre mesure, une simple nova, c'est-à-dire une nouvelle étoile, est aussi une étoile qui devient brusquement plus brillante. Historiquement, il y a eu des débats entre astronomes, parfois basés sur des conceptions douteuses, comme la possibilité d'une nova périodique qui réapparaîtrait de temps en temps, mais cette hypothèse ne semble plus claire en vogue. D'autant que la candidate la plus sérieuse, observée par des Chinois en l'an 5 avant Jésus-Christ, semble en fait correspondre à l'observation de la comète que j'ai mentionnée juste avant. Il existe cependant un partisan inconditionnel de cette théorie, c'était l'auteur de science-fiction américain Arthur C. Clarke, celui de 2001, l'Odyssée de l'espace, qui a publié en 1955 une nouvelle intitulée « L'étoile », « The Star » en anglais, évoquant cette fameuse étoile de Bethléem. C'est un texte que j'aime beaucoup car il met en scène un scientifique jésuite embarqué dans une mission spatiale et dont la foi vacille au vu des découvertes faites et du rapprochement avec l'histoire des mages. Mais je n'en dirai pas plus pour ne pas spoiler, comme on dit. Alors, il paraît qu'en français on dit divulgacher l'histoire pour les auditeurs qui voudraient la lire.
Il reste donc la conjonction planétaire.
Voilà, ce type d'événement qui correspond au rapprochement apparent dans le ciel de deux planètes ou plus, parfois au point de se confondre à l'œil nu, me paraît plus conforme au texte, car c'est typiquement une observation qui n'est pas forcément évidente pour tout un chacun, mais elle ne peut pas être ignorée par des astrologues dont l'occupation principale est l'interprétation du mouvement des planètes devant les constellations du zodiaque. Et cette hypothèse a un supporter de poids, car il ne s'agit pas moins que de l'astronome Johannes Kepler, à qui l'on doit les fameuses trois lois du mouvement des planètes autour du Soleil. Ayant lui-même observé une conjonction triple de Mercure, Jupiter et Saturne la veille de Noël 1603, le matin, il a eu l'idée de vérifier si une conjonction rare du même genre n'aurait pas pu se produire à l'époque de la naissance supposée du Christ. Et il trouve, en 7 avant Jésus-Christ, une conjonction spectaculaire de Jupiter et Saturne, car par le jeu de leurs mouvements respectifs, elles se sont rapprochées à trois reprises en quelques mois. Le 29 mai, que Kepler interprète comme le départ des mages pour leur voyage, puis le 6 octobre, qu'il suppose être leur arrivée à Jérusalem, et encore le 1er décembre, ce qui leur aurait indiqué la direction de Bethléem pour leur dernier déplacement. Cela semble presque trop beau, mais il faut relativiser sur plusieurs points. Ces conjonctions, bien que serrées, moins de 1 degré, séparaient les planètes, ne l'étaient pas assez pour que les deux planètes se confondent à l'œil nu dans le ciel, donc ça n'était pas un phénomène très spectaculaire. Le balai des deux planètes s'est déroulé dans la constellation des Poissons, qui en mai est visible plutôt du côté est, tard dans la nuit, donc le même problème de direction que j'évoquais tout à l'heure avec la comète. À l'inverse, lors du dernier rapprochement de décembre, on la voit vers l'ouest et seulement en début de nuit, mais cela ne correspond pas à la bonne direction si on doit se rendre de Jérusalem à Bethléem, qui est situé en fait au sud de Jérusalem. Et surtout, un problème, c'est que les conjonctions sont des événements tout à fait prévisibles pour des astronomes ou astrologues de l'époque, et même si cette triple est assez exceptionnelle, elle n'avait sans doute pas un caractère tellement extraordinaire au point de les faire entreprendre un long voyage. De ce point de vue, une comète ou une nova qui surgisse brusquement dans le ciel sans signe avant-coureur serait un phénomène plus plausible. En conclusion, On ne sait toujours rien dire de sérieux et d'indiscutable à propos de cette fameuse étoile de Bethléem, à part qu'elle apparaît un peu partout dans le monde chaque année vers le solstice d'hiver au-dessus des crèches et des sapins.
Allez, troisième partie de votre chronique astro, Michel. Le ciel du mois, et vous allez commencer par la voûte céleste, les constellations.
Voilà, comme je l'ai dit le mois dernier, il faut profiter de la fin de l'hiver hein, pour observer le ciel, car le soleil se couchant très tôt, on peut admirer la voûte étoilée sans avoir à veiller tard comme en été. Ces jours-ci, le soleil se couche un peu avant 17h30 et il fait bien noir dès 18h30. Fin janvier, ce sera vers 18h pour le coucher, la nuit noire vers 19h15. Pour les constellations, le plus simple est de consulter les cartes que nous mettons en ligne sur notre site web, hein, comme je le répète chaque mois, mais je vais faire un petit résumé du ciel de l'hiver. Alors que le ciel d'automne dont j'ai parlé ces derniers mois est toujours visible au sud en début de nuit, les constellations typiques de l'hiver se lèvent vers l'est en début de nuit et sont plein sud vers minuit. Pour voir l'ensemble des figures dont je vais parler dans un instant, il faut attendre jusque vers 20h30 que Sirius, l'étoile la plus brillante du ciel, soit levée. Fin janvier, toutes les constellations seront levées dès le début de nuit et culmineront au sud vers 22h30. La figure centrale de l'hiver, c'est sa constellation vedette, hein, comme je dis souvent, c'est Orion, que j'ai évoqué dans l'histoire des rois mages. Elle ressemble vraiment à une silhouette humaine, avec ses trois étoiles bien alignées formant sa ceinture, les rois mages, et quatre étoiles brillantes qui élargissent la figure en haut et en bas, certains disent un peu comme un papillon, et forment ses deux épaules et ses deux jambes. Les plus brillantes sont Bételgeuse, son épaule gauche, nettement orangée, Bellatrix, son autre épaule, dont le bras semble porter un arc, hein, en fait c'est un bouclier à l'ouest, donc à droite de la figure dans le ciel d'Orion, et Rigel, une étoile légèrement bleutée qui figure son pied droit. Une fois bien repérée cette figure dans le ciel, on constate qu'elle est entourée d'un ensemble d'étoiles disposées comme un grand cercle autour d'elle, et en ajoutant ces deux épaules, la forme qui se dessine ressemble à la lettre G, hein, c'est ce qu'on appelle le grand G de l'hiver, qui est vraiment très grand, hein, c'est pratiquement un quart ou un tiers du ciel visible quand on se met face à Orion. En suivant ce G, on passe en revue les principales constellations de l'hiver, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, en commençant par le Taureau, avec Aldébaran, une étoile orangée placée juste devant le bouclier d'Orion, puis plus haut, Capella, l'étoile la plus brillante du cocher, une constellation qui a la forme d'un pentagone irrégulier, et sa voisine un peu moins brillante. En passant vers la gauche, on tombe sur deux étoiles similaires, Castor et Pollux, de la constellation des Gémeaux, qu'on dessine comme deux silhouettes humaines côte à côte. Et en descendant encore à gauche d'Orion, on trouve Procyon, du petit chien, et plus bas, Sirius, du grand chien, impossible à rater vu son éclat, puisque c'est l'étoile la plus brillante de tout le ciel. Avec la turbulence atmosphérique, on la voit souvent scintiller bizarrement, avec des reflets de couleurs un peu comme un kaléidoscope. Pour boucler le G, on repasse à droite avec Rigel, le pied droit d'Orion, puis ses épaules, Bellatrix et Bételgeuse, qui forment la barre droite du G. Une fois qu'on a bien fixé ces dispositions des constellations autour d'Orion, il est facile de rechercher leur dessin en s'aidant des cartes du ciel, comme celles que nous proposons sur notre site. Hein, je rappelle, www.constellationsetgalaxies.org et aller dans la partie astronomie avec la rubrique « Le ciel du mois » où je mettrai, hein, je ne l'ai pas encore fait pour janvier puisqu'on n'a pas tout à fait fini le mois, je mettrai les cartes de janvier, je pense, ce week-end.
Allez, on continue, le ciel du mois, les planètes.
Alors, comme en décembre, la plus évidente, c'est Vénus, très brillante vers le sud-ouest en début de nuit et qui se couche en ce moment vers 21h. Comme elle continue de s'écarter du soleil dans le ciel, elle se couchera de plus en plus tard, vers 22h fin janvier. Un peu plus au sud, on peut encore apercevoir Mars, mais son éclat a beaucoup diminué. Elle ressemble maintenant à une étoile brillante, mais on peut la reconnaître à sa couleur orangée. Dans le ciel du matin, on a presque la situation symétrique du soir avec la brillante Jupiter, très blanche comme Vénus mais à l'éclat un peu moins fort, qui se lève vers 2h30 en ce moment et ce sera minuit et demi fin janvier. Elle est si brillante qu'elle reste bien visible dans le ciel jusqu'à à peu près une demi-heure avant le lever du soleil et même si on est bien attentif, presque jusqu'à l'arrivée du soleil comme un tout petit point brillant au milieu du ciel bleu de l'aube.
Et enfin, les éphémérides.
Alors, comme chaque mois, surtout des conjonctions de planètes avec la Lune, hein, ce week-end, pour commencer l'année, de dimanche soir 1er janvier à mardi, le fin croissant de Lune passera près de Vénus et de Mars, à leur droite, donc à l'ouest dimanche, entre les deux planètes lundi, et à droite, donc vers l'est mardi. Il faudra attendre ensuite jusqu'au mercredi 18 pour voir le dernier quartier se lever près de Jupiter, un peu avant 1h du matin, donc en fait c'est le jeudi 19 si on veut être précis, et le mardi 24 à partir de 6h du matin, le croissant sera près de Saturne. Alors pour finir cette rubrique, cette chronique, la dernière de l'année, avec un peu d'avance, mais je trouve que notre prochain rendez-vous, en principe le 25 janvier, sera un peu tardif pour cette tradition, je veux présenter à tous nos auditeurs mes meilleurs vœux pour l'année 2017 et comme on le fait souvent entre astronomes, leur souhaiter un bon ciel.
Eh bien, bon ciel à vous également, merci. Michel. Alors, on se voit le mois prochain. Regardez, on est dans les délais. On a juste quelques secondes. On va rappeler, bien sûr, Constellation et Galaxie.org. On met les infos également sur le Facebook. Donc, on se voit le mois prochain, Michel.
Oui. J'ai pas encore défini de sujet. Ça me viendra, je pense, dans les prochaines semaines.
J'allais poser la question.
Mais peut-être qu'une chose qu'on pourrait tenter, c'est de proposer aux auditeurs de nous écrire, soit à O2 qui transmettra, soit sur le site web Constellation et Galaxie, on trouve une page contact avec l'adresse mail, et de nous proposer peut-être de nous poser quelques questions sur des sujets que j'ai pas encore abordés pendant ces un peu plus de 2 ans, là où j'interviens sur l'antenne. Peut-être des choses très simples auxquelles j'ai pas pensé et qui amèneraient peut-être une réponse de ma part.
Très bien, ben on va pas y manquer. En tout cas, bonne fête. Hein. J'attendrai janvier pour vous souhaiter la bonne année. C'est pas qu'on soit superstitieux. En tout cas, merci à vous, Michel, chaque fois de venir de Dordogne hein, pour présenter votre chronique. Et on se voit donc le 25 janvier. Je vous fais confiance pour le mercredi. J'ai pas, donc c'est bon.
C'est bon.
Allez, merci beaucoup, Michel.